Chaque mercredi, je prends un thème différent pour que ceux qui reviennent s'ennuient pas trop. Je prends un thème différent chaque mercredi pour essayer d'éclairer chaque fois un autre aspect de la pratique. Comment on pourrait parler de la pratique? Et là, on pourrait dire, aujourd'hui, mon idée, ce serait de vous essayer de vous montrer pourquoi. Qu'est-ce que pratiquer? Qu'est-ce que la pratique de la méditation? C'est l'espace et le tactile. Et j'aime bien me donner des défis, parce qu'à première vue, vous devez vous dire, mais quel rapport entre pratique de la méditation et espace et tactile? Mais je crois que la chose est assez simple. Ce que nous avons oublié dans nos vies, c'est l'espace. On fait attention aux choses, le gong, la carafe, la fleur. On ne fait pas attention à l'espace qui permet que je prenne le bâton, que je sonne le gong, à l'espace entre les choses, à l'espace qui fait circuler, qui permet de circuler, qui permet de se mouvoir. L'espace autour des choses, l'espace qui fait qu'une chose se montre. Non pas tant l'objet, mais l'espace qui entoure, qui contient et qui fait être l'objet ou la chose. On entend ce que dit une personne, au mieux, mais on fait rarement attention à l'espace, l'espace à partir d'où elle parle, l'espace autour d'elle. À la fois, voyez, l'espace autour d'elle, et chaque personne, par exemple, vous êtes dans une pièce, quelqu'un rentre, l'espace en est transformé. Pas seulement l'espace géométrique, mathématisable, les quelques mètres carrés que la personne prend dans la pièce, mais la qualité de l'espace se transforme. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cet espace-là? Quelqu'un rentre et tout l'espace devient comme électrique ou l'espace devient comme attendri. Et puis, on fait attention à nos pensées, à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent. La psychologie est un peu obsédée par ce qu'on ressent. Et dans la vie de tous les jours, on est plutôt obsédé par ce qu'on pense ou ce qu'on fait. Mais on oublie l'espace. On oublie l'espace entre les pensées. Dans la pratique, c'est tout simple. Vous avez eu des pensées. À un moment, vous êtes revenu. Il y avait de l'espace. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous voyez la différence entre quand il y a des pensées dans lesquelles on est pris et on n'est plus présent à son corps, et quand on revient? Est-ce que quand on revient, quand on est là, quand on est assis corporellement pour de bon, est-ce qu'il n'y a pas plus d'espace? Est-ce qu'il n'est pas plus ouvert? Est-ce que là où il y a de l'espace, c'est là où c'est ouvert? Est-ce que ce que nous oublions dans nos vies, c'est l'ouvert? Vous voyez, je parle de l'espace autour du gong, l'espace à partir duquel le gong se présente, on pourrait dire l'ouvert. C'est ouvert pour qu'il y ait le gong. Si c'était complètement fermé, il n'y a plus de place, si on était dans un débarras, on ne voit plus le gong. C'est pas ouvert, il n'y a pas d'espace. Vous voyez, c'est très étonnant. Cet espace n'est donc pas du tout un espace purement géométrique. C'est un espace qui parle d'une qualité de présence. Donc on pourrait dire, le premier point, c'est une qualité de présence qui est spacieuse. Une autre manière de parler de ça, c'est d'habitude, on pense tout le temps à moi. Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Est-ce que ça va pas m'apporter quelque chose? Qu'est-ce que moi je vais gagner? Et il y a une autre approche, c'est à partir justement de cette ouverture, de cet espace, plus centré sur moi, mais centré sur l'espace. Qu'est-ce qui se passe là, maintenant? Non pas par rapport à moi, mais qu'est-ce qui se passe? Quand on décrit ce qui se passe, on est en rapport à l'espace. Qu'est-ce qui se passe? On donne du poids à la réalité. Et donc, méditer, c'est entrer en rapport à l'espace. C'est découvrir l'espace. C'est proclamer l'espace. Voilà. Ça, c'était... Après, il se trouve qu'un poète, qui s'appelle Rainer Maria Rilke, vous riez parce que vous étiez là les autres fois, mais pour ceux qui viennent pour la première fois, ils ne savent pas. Donc parce que tous les mercredis, je parle de Rainer Maria Rilke. Mais pour ceux qui viennent pour la première fois et qui ne savent pas, il est tout à fait possible que vous ayez jamais entendu parler de Rilke. Ça semble un peu étonnant, puisque comme j'en parle toutes les semaines. Mais Rilke est un des très grands, si ce n'est le plus grand poète du XXe siècle. Rilke ne cesse de creuser l'énigme du fait que l'espace intérieur et l'espace extérieur sont le même. Il ne cesse, et c'est ça au fond pour lui la découverte de la poésie, c'est que l'espace extérieur c'est aussi l'espace intérieur. On ne peut pas les séparer. Et c'est très très... Ce que je vous dis, il faut que vous preniez le temps de voir si ça vous parle et peut-être de travailler avec cette idée-là dans la semaine à venir. Qu'est-ce que c'est? Comment l'espace intérieur résonne dans l'espace extérieur? Comment l'espace extérieur doit toujours être espace intérieur? Si vous vous promenez dans un jardin et que c'est très ouvert, cette ouverture n'est rien si elle n'est pas habitée de l'intérieur, qui lui donne sa consistance. C'est juste du vide, c'est juste des mètres carrés. Mais si vous prenez le temps que ça chante en vous, que ce qui se passe chante en vous, bien là, en ce moment, c'est passionnant. C'est le début de la floraison des arbres. Donc on voit, on est appelé, disons, notre attention est appelée parce que ça change d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, ça commence à changer. Donc là, l'attention qu'on porte change le rapport qu'on a. Donc l'attention qu'on porte à l'espace fait que l'espace rayonne. Ça, c'est ça, le rapport entre espace intérieur et espace extérieur. J'ai vu une vidéo tout à l'heure d'un grand spécialiste du corps qui est un sort de maître en kiné. Comment on l'appelle? Kiné. C'est quoi là, après kiné? Kinésithérapie. Et là, il pose la main sur la personne, la patiente. Et j'ai juste vu la manière dont il posait la main. J'avais déjà plus envie de regarder le reste. J'étais déjà complètement crispé. Parce qu'il posait la main comme sur une chose. C'est un corps, mais c'est comme une chose. C'est souvent le cas avec les kinés. Pas tous, heureusement, mais c'est souvent le cas. C'est souvent le cas parce que notre monde a oublié l'espace. Notre monde a oublié la dimension méditative. Alors, j'étais avec plusieurs personnes, dont certains trouvaient ça, étaient frappés par la technique qu'ils déployaient, mais moi, j'étais déjà... Mais quasiment au bord du vertige. C'est un peu, on se refait pas. Je suis assez sensible à ça. C'est sans doute pour ça que la méditation me parle. Mais moi, je voyais que jamais il touchait un être humain. Et il continuait. Je peux même pas vous décrire parce que c'est atroce. C'est atroce le rapport qu'il avait, parce que c'est plus que... Alors, c'était amusant, parce qu'il expliquait ce qu'il faisait, donc S2, L3, et donc il expliquait. faites bien attention. Je ne dis pas que c'est que savoir le détail technique est inimportant, mais ça peut devenir une manière de ne pas rentrer en rapport à la réalité. Ça peut devenir une manière, au contraire, d'avoir de la finesse devant la subtilité de la réalité, ça peut être une manière de ne plus avoir rapport à la réalité. Je lisais dernièrement, c'est-à-dire j'ai dû lire ça hier ou aujourd'hui, dans un livre de François Roustan, qui dit toute théorie, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que fait le travail d'un thérapeute? Un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui sait que toute théorie n'est là que pour empêcher le thérapeute d'entrer en rapport pour de bon avec un patient. C'est juste là pour le protéger, d'entrer en rapport pour de bon avec un patient. Bon, évidemment, c'est François Roustan qui a un rapport réel avec les gens. Mais vous voyez, c'est ça l'espace. C'est ça l'espace. C'est ça la méditation. Si on touche le corps comme ça, comme une chose, moi je peux même pas, même le bâton, je peux pas le toucher comme il le touche, parce que moi j'entre en rapport à son poids. Ouais, donc j'ai rapport à lui. Lui, il le touche comme ça. Il le prend comme ça. Ça n'a aucune importance comment on le prend. Ouais, il n'y a aucun rapport, il n'y a plus aucun rapport. C'est ça, c'est tout à fait essentiel. S'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de rapport. Parce que rapport, c'est apport de part et d'autre. Donc il faut qu'il y ait écoute. Donc il faut qu'il y ait d'espace. Donc ça, c'est le point. Et vous voyez ce que dit Rilke, qui pourrait sembler. On a l'impression, parce que c'est un poète, que ce n'est pas lié à notre vie de tous les jours. Mais comment vous touchez le bâton? Est-ce que vous le touchez en laissant l'espace intérieur être en rapport à l'espace extérieur? C'est-à-dire, est-ce que quand vous le touchez, quelque chose œuvre en vous pour l'accueillir, le bâton, ou pas? Ou ça n'a aucune importance, ou rien n'est réel, voyez? C'est-à-dire, le corps, pour le kiné, est mort. C'est un corps mort. Sans espace, tout est mort. Et donc la méditation, ça je vous disais, la méditation c'est libérer la vie, c'est faire confiance dans la vie. Mais je vais vous parler de quelqu'un d'autre qui éclaire le rapport à l'espace, c'est le peintre Braque. Braque a dit « Toute ma vie, ma grande préoccupation a été de peindre à l'espace. » Ceux qui ont eu la chance de voir l'exposition Braque l'année dernière ont pu voir une méditation sur l'espace. Mais voilà le passage de son... Je ne vais pas vous parler de Braque, ça serait trop long. Je vais juste centrer sur une toute petite partie de ce qu'il dit, c'est ça. « Ce qui m'a beaucoup attiré, et ce fut la direction maîtresse du cubisme, c'était la matérialisation de cet espace nouveau que je sentais. Alors je commence à faire des natures mortes parce que dans la nature morte, il y a un espace tactile, je dirais presque manuel. Cela correspondait pour moi au désir que j'ai toujours eu de toucher la chose et non seulement de la voir. » Et là, c'est tout à fait très impressionnant. Très impressionnant, parce que la première phrase est « Ce qui m'a beaucoup attiré, ce fut la direction maîtresse du cubisme. » Tous les spécialistes du cubisme vous expliquent que le cubisme, c'est une réflexion analytique sur la réalité, une décomposition de l'objet en facettes. Ils n'ont jamais dû lire Braque. Parce que Braque, il dit « matérialisation de cet espace nouveau que je sentais ». Donc il ne s'agit pas d'un travail intellectuel, il ne s'agit pas d'un travail de construction, il s'agit d'abord de matérialiser l'espace qu'il sent. Ah, c'est quand même précis. Mais là, je fais juste une parenthèse. Quand on est historien de l'art, il ne faut jamais lire... Il y a presque une sorte de règle d'or, on ne lit jamais les artistes, ça n'a aucune importance ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. Donc, je serais pour une autre approche de l'art dans laquelle on écoute ce que disent les artistes, on essaie de voir pourquoi ils disent ce qu'ils disent. Parce que là, c'est quand même assez... matérialisation de cet espace nouveau que je sentais. C'est quand même extraordinaire. La peinture, pour Braque, c'est matérialiser, rendre le plus tangible possible l'espace, c'est-à-dire l'ouvert. comment rendre sensible ce qui est ouvert? Si c'est que ouvert, on peut être perdu dans l'espace, ça peut devenir vague. Donc il faut que ce soit tangible. Donc il y a l'espace que je découvre, qui me fait sortir du moi, moi-même et encore moi. Cet espace est inséparable d'une expérience intérieure qui est en même temps une expérience extérieure, d'une inséparabilité qui se répond l'une l'autre. Et en même temps, cet espace est tactile, il n'est pas abstrait. Et vous voyez, c'est très précis, le visuel peut avoir tendance à avoir du recul et de la distance et à juger les choses. Le tactile pourrait nous aider à redonner corps à la réalité, à l'ampleur des choses. Et je crois que c'est ça la méditation. Méditer, c'est entrer dans l'immensité du sentir. Et l'immensité, espace, sentir, tactile. Voilà, c'est ça la méditation. C'est l'immensité du sentir, l'espace du tactile. On est là, présent, c'est ouvert. C'est tout simple. Qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est assis, on a médité, on s'est assis, ouvert, espace. Quel soulagement juste. On n'a pas besoin de porter quelque chose, on n'a pas besoin de réfléchir à quelque chose juste. On fait confiance à l'espace. Mais on fait attention tout de suite, on ne se perd pas dans l'espace comme ça. On fait toute attention à la texture de l'espace. D'abord à notre inscription corporelle, et donc j'insiste beaucoup, vous avez vu, sur comment on s'assoit, comment on se pose. Je ne vous ai pas dit, on va méditer, soyez juste ouvert à l'espace. On se pose. Tactilement, on entre en rapport au corps. Tactilement, c'est-à-dire le contraire du geste du kiné. On sent la texture des pensées, si elles sont lourdes, crispées, rapides, noires, glauques, etc. On s'ancre concrètement. On pourrait dire autrement, si vous voulez, on pourrait dire ça autrement. L'espace est le tactile, l'immensité est le sentir. Mais on pourrait dire aussi, on s'ancre concrètement et on s'ouvre à l'azur. Ça, c'est comme ça que parle Mallarmé. Il y a ces deux vers d'un poème de Mallarmé qui dit « Où fuir dans la révolte inutile et perverse, je suis hanté, l'azur, 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 l'azur. » Ça, c'est... Mallarmé dit qu'il était un mendieur d'azur, que le poète est un mendieur d'azur. On va dire un méditant, c'est un mendieur d'azur. Évidemment, ce qui est magnifique dans le poème, c'est comment la répétition du mot azur lui donne une consistance tout à fait tangible. Et c'est ça la pratique. Je suis hanté, l'azur, 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 l'azur. C'est ça, méditer. C'est accepter de reconnaître que nous sommes hantés, que l'azur nous hante. Et c'est ça, l'espace. Qu'est-ce que c'est méditer? C'est entrer en rapport à l'espace, c'est laisser l'azur nous hanter, le reconnaître. Mais ça ne devient pas juste une idée, la répétition fait que ça devient tangible et que le mot devient, oui, tactile. On pourrait dire la répétition rend l'azur tactile. L'azur, 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 l'azur. Voilà une manière de parler de la pratique de la méditation. Et vous êtes absolument bienvenue si vous avez des questions. On va vous donner...
Oui, bonjour. Vous avez parlé tout à l'heure de Roustan. Donc, la question, vous l'attendez forcément. Le rapport entre méditation et hypnose. Ah, c'est vous qui avez commencé. Hein.
Vous me posez une colle. Je vais vous dire, honnêtement, vous me posez une colle. Je dois intervenir à une journée de colloque sur méditation et hypnose au mois de mai. Ça fait des semaines que je me dis, est-ce que je vais dire quelque chose sur la différence ? Et je suis vraiment... je ne peux pas répondre. Et je vais vous dire pourquoi je ne peux pas répondre.
Ah, si je peux vous aider, peut-être.
Oui, vous êtes hypnothérapeute ?
Non, je ne suis pas hypnothérapeute. Je vais faire les études pour, mais par contre, je me suis beaucoup hypnotisé. Et là, ce que j'ai ressenti tout à l'heure, c'est que j'étais rentré en auto-hypnose, en vérité.
Il était en auto-hypnose. Alors, moi, je vais vous dire pourquoi je ne peux pas répondre à la question. Alors, j'ai entendu des gens qui s'y connaissent très bien dire... C'est très différent. Mais manque de peau, j'ai oublié de leur demander pourquoi ils ont dit ça avec un tel ton. Mais quelqu'un de tout à fait remarquable, que je respecte beaucoup, mais il faudrait que je lui demande. Et alors après, moi, je ne connais de l'hypnose que François Roustan. Et j'ai l'impression qu'entre François Roustan et la plupart des gens qui font de l'hypnose, il y a autant de différence qu'entre moi, ce que j'appelle méditation, et ce qu'on appelle dans les journaux méditation. Donc, la question, c'est de quelle hypnose on parle et de quelle méditation on parle. Parce que la plupart de l'hypnose que je vois, c'est une technique. Ce que fait François Roustan, c'est sans technique. Donc, vous ne faites rien. Donc, vous voyez, donc là, moi, je parle de François Roustan.
Si je peux me permettre, oui. Parce que moi, j'ai suivi François Roustan aussi, parce que je trouve que c'est assez exceptionnel et que je m'intéresse à l'hypnose, je vais aller très rapidement. Ce que fait Roustan, c'est de mettre les gens en situation pour qu'ils se sentent le mieux possible. Donc la différence, c'est que vous, à la limite, vous intervenez très très peu, vous parlez très très peu. En général, effectivement, quand on a une séance d'hypnose, la personne vous accompagne un petit peu plus, ce qui fait que vous rentrez plus facilement. Mais sur ce que j'ai ressenti et ce que j'ai pu vivre, c'est sensiblement pareil. Après, c'est un problème de profondeur et de degré, tout simplement. Quoi. Alors, après, ça dépend si on parle effectivement d'hypnose ericksonienne ou d'hypnose directe. En hypnose directe, ça n'a strictement rien à voir.
Oui. Disons, j'entends. J'insiste sur la prudence qui est la mienne. Sur la prudence qui est la mienne. Il y a évidemment beaucoup de points communs. Après, je dirais, moi, il y a une différence, c'est que l'hypnose se fait d'une personne à une autre personne dans un cadre thérapeutique, et la méditation ne se fait pas d'une personne à une autre personne, et nous ne sommes pas dans un cadre thérapeutique. Et le travail que fait François Roustan, encore une fois, je ne connais que ça, c'est vraiment un travail où il entre en rapport à vous et il vous pose dans votre lieu propre, qui est un travail thérapeutique. Mais je ne dirais pas qu'il vous pose là où vous êtes bien. Vous avez dit ça, mais je...
Ah non, je n'ai pas dit qu'il vous posait où vous êtes bien. J'ai dit qu'il vous posait où vous êtes, effectivement. Donc oui. Je vous rejoins complètement.
Donc il y a un côté très abrupt. C'est
entre vous et vous, tout simplement. Oui, lui, il est simplement un médiateur, tout simplement.
Le point commun, c'est le côté sans doute très abrupt de la chose. Mais voilà, donc vous avez raison. Il y a de très nombreux points communs. Au fond, voilà, c'est comme ça qu'il faut que je réponde à votre question. Je vois d'un seul coup. Il ne faut pas répondre à cette question-là d'un point de vue général. On peut juste répondre, voyez dans votre expérience, le point commun, ça sera pour chacun différent, parce qu'il y a plein de rapports différents à l'hypnose, plein de rapports différents à la méditation. Donc, voyez, j'explore pour moi les points communs et les points de différence, mais au fond, c'est juste là vraiment très personnel.
Pour revenir à l'hypnose que j'ai pratiquée, mais en tant que patient, j'ai cru comprendre que c'était un état modifié de conscience.
Je pense que, vraiment, je préfère qu'on n'entre pas là-dedans. Par exemple, si vous lisez Roustan, tous ses textes, c'est de dire rien n'est plus absurde que de définir l'hypnose par un état modifié de conscience et que c'est la meilleure manière de ne pas comprendre l'hypnose. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc je pense qu'on peut pas. Je préférerais qu'on ne poursuive pas la discussion parce que il y aura des dizaines de manières de parler d'hypnose, comme il y a des dizaines de manières de parler de méditation. Je préfère qu'on centre vos questions dans les quelques minutes qui restent sur la pratique de la méditation.
Et c'est pour ça que la méditation, c'est pas du tout ça. Enfin, moi, ce que je vis dans la méditation, c'est pas un état modifié de conscience. C'est peut-être une autre forme de conscience, mais c'est pas un état modifié. En plus, dans l'hypnose, c'est un état de conscience entre la veille et le sommeil. Donc c'est une fluctuation entre l'état de veille et l'état de sommeil. Donc moi, ce qui me concerne, la méditation, ça ne me produit pas du tout ça.
Tout à fait. Je comprends très bien. Enfin, si ça vous intéresse, venez à la journée du colloque. C'est à l'Académie de médecine dans le 5e. Mais on donnera des indications pour les membres de l'école.
Est-ce que tu voudrais bien développer la distinction entre sentir et ressentir ? Si ressentir est piégé dans la psychologie ?
Qu'est-ce que j'ai dit sur la psychologie ?
Tu as commencé par dire en introduction que la psychologie se centrait beaucoup sur le ressenti.
Et qu'il n'y avait plus des... Oui, c'est très juste, très bien. Oui, la psychologie, qui a eu l'idée complètement étrange d'enfermer, d'avoir l'idée qu'il y a une psyché qui existerait séparée du corps et de la présence, quelque chose de séparé comme ça, donc c'est complètement fictionnel puisque ça n'existe pas. Aucun être humain est sans son corps. Donc là, il y a quelque chose qui fait vraiment profondément défaut. Et donc, ce qui fait défaut, c'est l'espace. Puisqu'on pense tout à partir d'une sorte d'intériorité qui n'ouvre pas à la résonance du monde. Donc, ce qu'entend Rilke qui pourrait nous libérer de ce piège de la psychologie, c'est qu'à tout espace senti, quelque chose répond dans le monde. À tout espace du monde, quelque chose répond en nous. Que nous, donc il n'y a de ressenti qu'à la mesure de l'écoute d'un phénomène. Et dans la psychologie, il y a tendance à oublier le phénomène. Ce qui nous importe, c'est plus que le ressenti. Et ça, c'est tout à fait dommage. Il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus de corps. Et donc, il n'y a plus de monde. Il n'en reste plus grand-chose. Donc, ça ne peut pas beaucoup aider.
Bonsoir. C'est la première fois que je viens, donc je découvre. Ce que vous dites, c'est sur le ressenti. En fait, j'avais une question du coup par rapport à la méditation qu'on a faite. Comme l'exercice est quand même de rester, il y a une recherche d'immobilité. Ce que moi j'ai ressenti, c'était qu'à un moment donné, j'oublie le corps. Et le corps, en fait, de par son immobilité, devient quelque chose. C'est pas comme un corps en mouvement, par exemple. Si on fait du jogging, on va avoir des pensées, mais le corps est en mouvement. Et on ressent le corps en même temps. Dans cet exercice de méditation, c'est comme si le corps n'était pas endormi, mais il y a quand même un peu cette chose-là. Donc il y a quand même l'idée de séparer un peu le corps de l'esprit.
Comment vous appelez ?
Emmanuel.
Ça, c'est formidable comme question.
Alors, je continue.
Oui, allez-y. Continuez.
Mais du coup, non, c'est parce que vous disiez par rapport au ressenti, donc de passer par le corps de l'esprit. Et là, justement, c'est ce que j'ai ressenti comme exercice, en fait. Voilà. Alors, je voudrais savoir comment.
Votre question est très intéressante parce qu'elle est complètement emblématique de ce que tout le monde croit aujourd'hui. Mais moi, vos prémices, je vais les mettre en question. L'idée qu'on a rapport à son corps parce qu'on bouge, plus que quand on est immobile. C'est d'où vient cette idée ? L'idée que parce qu'on fait du jogging, on a rapport à son corps. Moi, je vois tous les gens faire du jogging avec des écouteurs. Ils n'ont aucun rapport à leur corps. Aucun rapport à leur corps. Ils instrumentalisent leur corps et ils sont fatigués. Mais le rapport au corps, c'est un rapport de présence. Vous pouvez courir en rapport de... Vous pouvez faire du jogging en présence. Vous pouvez faire du jogging sans avoir aucun rapport de présence. Vous confondez la douleur ou, disons, l'effet avec la présence. Mais l'idée qu'il n'y ait pas de corps parce qu'on est immobile, c'est une idée extrêmement inquiétante. Vous me faites peur. Pas vous, parce que c'est pas seulement vous, mais l'idée que parce qu'on est immobile, on n'a pas de rapport au corps, et parce qu'on bouge, on a rapport à son corps, c'est une idée, mais quand on y réfléchit, c'est une idée, mais complètement folle. Mais complètement folle. Je dirais, c'est exact. Moi, je dirais, c'est l'inverse. Vous n'avez de rapport à votre corps que si vous êtes capable, en étant immobile, de découvrir votre corps. Comment vous voulez trouver le corps si vous bougez tout le temps? Vous ne pouvez pas le trouver. C'est pas parce qu'on fait. Il y a plein de gens qui font du sport à un très haut niveau, de compétition, ils n'ont pas de rapport à leur corps. Ils instrumentalisent leur corps, c'est pas ça un rapport plein à son corps. Un rapport plein à son corps, c'est comment on l'habite, comment on l'incarne, comment on est à son écoute, comment on l'entend, comment il nous meut, comment il est parole. Donc vraiment, c'est une idée. Vous avez donné l'exemple, je suis très heureux parce que je donne toujours, moi, vous êtes la première fois que vous venez, mais je donne toujours cet exemple-là du jogging comme l'exemple même d'une idée. Le jogging, c'est la manière dont les gens n'ont pas de rapport à leur corps. Ils ressentent des choses, mais c'est parce qu'on ressent des choses que c'est un rapport à son corps. Ça ne donne pas un sens de présence. Et si, dans la pratique, en étant immobile, vous ne sentez pas votre corps, ce n'est pas de la méditation, c'est autre chose. Méditer, c'est toucher la présence avec son corps. Ce n'est pas comme ça que j'en ai parlé ce soir, parce que j'ai trouvé une autre perspective, mais méditer, ça c'est, je le dis presque chaque fois, méditer, c'est toucher la présence avec son corps. Et vous ne touchez pas la présence avec votre corps en faisant du jogging. Enfin, vous pouvez, mais c'est pas le jogging qui va vous permettre de le faire. C'est la méditation qui peut vous permettre de le faire.
Ouais, enfin, justement, c'était d'abord une question, et ensuite.
Ben, j'espère vous avoir éclairé.
Oui, mais après, c'est que vous opposez radicalement en fait le corps en mouvement au corps immobile et le corps souffrant.
C'est vous qui l'avez opposé.
Non, c'est parce
moi,
que
moi, j'aurais jamais opposé. C'est vous qui avez dit le corps en mouvement.
Oui,
je le sens plus quand je suis mobile, je ne le sens pas. Donc j'ai juste dit, si vous voulez garder votre distinction, il faut faire l'inverse.
Non, ce que je voulais dire, c'était que le corps en mouvement n'était pas nécessairement un corps souffrant ou un corps dans l'effort, ou ça peut être un corps qui découvre et qui touche et qui sent et qui.
J'ai pris votre exemple du jogging.
Oui, mais en tout cas, dans les sens du toucher. Voilà, du coup, ma question, ça veut dire que dans la méditation, il y a cette découverte du corps, mais pas l'intérieur, puisque a priori le sens du toucher est moins en action ou
non, c'est vraiment non. Vos mains sont sur vos cuisses, vous le sentez. Vos pieds sont en contact avec le sol, vous le sentez. Votre bassin se pose, vous le sentez. Vous sentez la température de l'air. Tout est ouvert. Vos perceptions sensorielles sont complètement ouvertes. Et c'est parce que c'est simplifié que vous pouvez donner attention à tous ces détails. S'il y a trop d'informations. Je parle de manière bête que je n'aime pas parler comme ça. Quand il y a trop d'informations, vous n'arrivez plus à pouvoir discerner les choses. Donc, pourquoi on est mobile? Pour simplifier, pour pouvoir voir ce que ça veut dire qu'être présent à son corps. Et à partir de là, bien sûr, on peut être présent en mouvement. Mais plus vous êtes en mouvement, plus c'est difficile d'être présent. C'est pas parce que vous êtes en mouvement. C'est bien l'inverse de ce que vous croyez. Mais bien sûr qu'après, grâce à la pratique, vous allez être attentif à tout. Et l'autre point, c'est comme il n'y a pas d'objectif dans la pratique, c'est plus facile de découvrir le corps. Quand on fait un exercice physique et qu'on a un objectif, le jogging, le yoga, ou n'importe quel sport, on est des fois un tout petit peu pris par l'objectif et ça devient un peu plus difficile d'habiter son corps. Il y a une ou deux autres questions. Mais qui a des questions? Une question. Voilà, il y a trois. Et après, on arrêtera parce que je ne voudrais pas finir trop en retard.
Bonsoir, Evelyne. Justement, alors, si on veut avoir un rapport à son corps, ça veut dire qu'on est présent à ses impressions, ses ressentis qui reviennent. Or, ça participe à une pensée.
Non. Le problème de la pensée, à un moment qu'on revient, c'est quand la pensée, comme je l'ai dit, fait que vous n'êtes plus en rapport à votre corps et au moment présent. C'est un moment, vous êtes là, assis sur le coussin. Si vous pensez, je suis là, je respire, on peut dire c'est une pensée, il n'y a aucun problème. Mais à un moment, vous êtes en train de faire des additions et vous n'êtes plus du tout assis ici. Vous vous en rendez compte, vous revenez, vous dites bonjour, c'est tout.
D'accord, donc le fait d'analyser, enfin, analyser n'est peut-être pas le mot.
Le fait d'être avec quelque chose participe d'un sens de présence.
Le fait que je sente cette chaleur et que je le.
C'est très bien.
Dire, que je le théorise, enfin, je le théorise, je mets des mots dessus dans ma tête.
Oui,
je
mais
le pense.
Au fond. Tant pis, il y a des mots. Ce qui compte, c'est que vous faites l'épreuve de la chaleur. Vous mettez les mots, ce n'est pas le plus important. Vous faites l'épreuve de la chaleur, très bien, ça vous met en rapport au présent. Il y a une différence entre être en rapport au présent dans toute son ampleur et ne... Ce qu'on essaye de souligner, c'est comment il y a des moments où on part en roue libre, on part dans un bavardage qui n'est plus en rapport à la réalité. C'est lui qu'on essaye de remarquer. Pas pour le juger, pas pour le défaire, juste pour le remarquer, pour remarquer la différence. Mais là, par exemple, je vous parle, mais je suis présent. C'est complètement différent maintenant comment je vous parle, ou si je suis avec vous, puis j'ai en train de penser complètement à autre chose, qu'est-ce que je vais faire après, vous voyez ? Donc là, je vous parle, mais voilà. Vous voyez, et ben c'est ça, c'est exactement ça qu'on recherche dans la pratique.
Bien, merci.
Et donc, c'est très important, votre question. Et donc, quand on est présent, on est... c'est ça la vérité de la pensée.
Oui, bonsoir. On a besoin de sentir son corps pour méditer, alors ?
Absolument. On ne peut pas pratiquer si on n'est pas posé, ancré, en rapport à son corps. Et déjà posé. C'est ça que cette posture est très précieuse. Vous êtes assis, vous êtes posé, votre corps se pose. C'est très important. Sans le corps, on ne peut pas penser. On ne peut pas méditer. On ne peut pas penser non plus, mais on ne peut pas méditer. Il y avait une dernière question, mademoiselle. Vous pouvez relever la main pour qu'on voit où le micro doit se rendre.
Bonsoir. Moi, quand je médite, j'observe que quand des pensées surgissent, j'ai l'impression que si je ne vais pas au bout de la résolution de cette pensée, le bonjour que je me dis est très brutal et il fait un peu mal, alors qu'on a l'impression qu'il y a un apaisement si on arrive à résoudre cette petite pensée à laquelle de toute façon on va devoir réfléchir. Donc on négocie un peu qu'on va jusqu'au bout.
C'est super, c'est, là vous, on ne me l'avait jamais faite celle-là, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Là vraiment, on m'a rarement posé une question aussi, c'est trop mignon, mais c'est pas vrai. C'est trop mignon, c'est bien d'essayer, mais... Parce qu'on peut, on n'en sortira jamais, parce que vous avez une pensée, mais vous pouvez, ça peut durer 3 heures, le fait de suivre la pensée avant de dire bonjour. Donc, non. Pensée, elle a été extraordinaire et magnifique cette pensée, mais je reviens, et si elle est importante, on la retrouvera après. Et donc, on prend le risque de sauter dans l'espace.
Oui, et de l'oublier aussi. Enfin, on a peur de l'oublier, en fait. On se dit bonjour, mais quand même, j'y reviendrai.
Voilà. Si vous voulez.
Ça, il est terrible.
Ça, c'est une très bonne... Comme vous avez posé une question mignonne, je vais vous faire une réponse. Ça, c'est pas mal, parce que vous dites bonjour, et si elle est vraiment bien, cette pensée, elle reviendra à la fin de la session de méditation. Et si, comme c'est très probable, c'est pas du tout important... Elle ne reviendra pas. Et vous êtes beaucoup plus sûr de trouver les bonnes, les pensées qu'il faut suivre que celles qu'il ne faut pas suivre en faisant ça.
Merci.
Bonne chance. Ben, merci beaucoup. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est si vous voulez, cette petite aperçu de méditation vous a parlé et que vous voulez aller plus loin, nous organisons de temps en temps une journée pour apprendre à méditer. La prochaine, c'est le 19 avril. Ces journées pour apprendre à méditer ont lieu dans un lieu très beau qui se trouve rue Bonaparte. Je crois qu'il y a des papiers dehors. Et vraiment, on a construit cette journée pour permettre aux gens de vraiment rentrer dans la pratique. Parce que là, on n'a pas le temps de vous expliquer la posture, les obstacles principaux, comment on fait. Et donc là, c'est vraiment conçu pour vous permettre de découvrir la pratique de la méditation. Et ça dure une journée entière, c'est un dimanche, et c'est dimanche 19 avril. Voilà, donc c'est fait pour vous aider à rentrer dans la pratique. Merci.